3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Programme Double, un podcast de moins d'une heure diffusé une fois aux deux semaines qui vous présente deux longs-métrages ayant en commun une même thématique, un même acteur, un même réalisateur ou qui font partie d'une même franchise. Le but du podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder à l'émission un sujet extrêmement délicat, soit celui des détournements d'avions. Et pour ça, j'ai décidé de choisir deux films qui ont plus d'une cinquantaine d'années de différence, soit un qui a été fait en 1972, Skyjacked, et le second qui est réalisé en 2019, soit 7500. La raison pourquoi j'ai choisi ces deux films, c'est principalement pour démontrer à quel point non seulement la technologie a évolué, mais également à quel point notre comportement au niveau de l'aviation a changé avec le temps. Dans les années 70, quelqu'un qui détournait un avion était appelé un pirate de l'air. Aujourd'hui, on appelle ça un terroriste. Et tout ça est parti des attaques du 11 septembre 2001. Avant le 11 septembre 2001, on pouvait rentrer dans une cabine de pilotage comme on voulait. Après le 11 septembre 2001, on a changé complètement la façon de procéder à bord d'un avion. Avant, il était possible d'amener qu'est-ce que vous vouliez à bord de l'avion. Aujourd'hui, bien, vous ne pouvez même plus avoir des objets qui sont faits en métal ou qui pourraient avoir l'apparence de couteau dont on pourrait se servir pour faire une arme. Donc, ce n'est pas du tout la même dynamique dans les années 70 que dans les années 2000. Et ça, c'est important pour les deux films que je vous présente aujourd'hui parce que dans le premier, qui est Skyjack, vous allez voir quand même deux choses vraiment très importantes. La première, c'est la façon dont se comporte l'équipage, la façon dont on pilote un avion et également la façon dont les gens se comportaient un envers l'autre. Avec 7500, c'est tout à fait le contraire. C'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il veut. Et puis, on voit également à quel point la sécurité est beaucoup plus évoluée aujourd'hui qu'elle l'était dans les années 70. L'autre chose aussi qui va être importante de remarquer dans ces deux films-là, c'est l'évolution technologique. Dans les années 70, l'appareil avait vraiment une technologie mécanique, alors qu'aujourd'hui, on est rendu dans le numérique. Et la façon de piloter l'avion est totalement différente également. Donc, c'était quelque chose d'approprié, je pense, de démontrer la différence au niveau technologique. Et donc, je trouvais ça approprié d'avoir ces deux films-là là, pour nous montrer cette différence-là entre les années 70 et les années 2020. Donc, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage à travers la terreur de la folie des années 70 et celle d'un monde totalement transformé par un geste terroriste des plus meurtriers.
Here's a new taste treat. The corn dog. Plump, juicy wieners are dipped in a thick, golden southern-style corn batter that seals in all their freshness and flavor. If you like hot dogs, you love corn dogs. Everybody does. Try a corn dog with your favorite beverage. At the refreshment corner now. Corn dogs. See your next movie completely free. And now, on with the show.
Global Airways, Flight 502, nonstop, Oakland to Minneapolis. On the flight deck, Captain Hank O'Hara. He's flown 10 million miles without a hitch.
Here we go.
A routine flight to a routine city. The kind of flight O'Hara's run 1,000 times. The kind of flight anyone might take. But this time, there's going to be an unscheduled stop.
Get on the horn to the FBI. Looks like 502's got a hijacker on board.
Don't forget, I've got passengers aboard this aircraft.
Well, don't worry, Captain. There won't be any shootouts.
Captain, this passenger would like to talk to you.
We're intruding into Soviet airspace. They're liable to shoot us down and get the answers later. I'm diverting to a free world strip.
Hank, we're there.
Tell Anchorage to prepare for a 00 landing.
Yeah, if a mountain doesn't smack us first.
What the hell is that?
Our radio's out, sir.
Grundig, find out what that traffic is. Tell them to get the hell out of there.
Unidentified aircraft. Bring off your approach. You are on a collision course.
Captain O'Hara,
we've got unidentified traffic moving into your glide slope. They do not respond to our calls.
Horizontal and vertical separations almost gone, Captain.
Above me or below me?
I don't know. He's too close.
Mayday, Hank, mayday.
This is the story of a routine domestic flight that turns into an international nightmare. Charlton Heston, Yvette Mimieux, Walter Pidgeon, James Brolin, Roosevelt Greer, Leslie Uggams, Gene Crane.
All right, you heroes, come and get it.
Characters in a deadly drama at 38,000 feet. As one of our planes is skyjacked.
Skyjacked, ou si vous préférez en français « Alerte à la bombe », est un drame qui est sorti en salle le 24 mai 1972 par la maison de production Metro Gunwin Mayer d'une durée de 101 minutes. Le film a coûté 2,7 millions de dollars à produire et a ramassé plus de 6,5 millions au box-office, un des plus gros succès de la MGM en 1972. Au niveau de la réalisation, on retrouve le réalisateur britannique John Guillermin qui va nous donner en 1974 La Tour Infernale, The Towering Inferno, et l'excellent King Kong en 1976. On trouve également le producteur Walter Seltzer qui avait produit des films comme Soylent Green ou Soleil Vert, The Omega Man ou Will Penny en 1968. Au niveau de la scénarisation, on va retrouver Stanley R. Greenberg, lui-même qui avait également écrit le scénario de Soylent Green, dans lequel on retrouvait comme acteur l'acteur principal de Skyjack, soit Charlton Heston, qui interprète ici le personnage du capitaine Henry O'Hara. Également à ses côtés, il y a l'actrice Yvette Mimieux, James Brolin, Claude Akins, Gene Crane, Susan Day, qui obtient ici son premier rôle parlant dans un long métrage au cinéma, Walter Pidgeon et Roosevelt Greer. L'histoire suit l'équipage d'un Boeing 707 en direction de Minneapolis qui voit soudainement sa route détournée vers Anchorage en Alaska suite à la découverte d'un mystérieux message écrit dans la toilette des dames à l'aide d'un rouge à lèvres. Face à ça, le capitaine ne prend pas de chance, donc en arrivant à Anchorage en Alaska, s'apprête à faire débarquer son équipage, mais soudainement, on va découvrir qui est l'auteur du message en question et on va découvrir en réalité que cet homme-là n'a pas l'intention de s'arrêter en Alaska, mais voulait juste s'arrêter là pour pouvoir refaire le plein au niveau de l'avion et repartir en direction de l'Union soviétique, endroit où il veut tout simplement demander l'asile politique. L'inspiration du roman Hijacked de David Harper, sur lequel est basé le film Skyjack, est venu de la situation où, entre 1961 et 1969, plus d'une centaine de détournements d'avions avaient eu lieu dans l'espace américain. Le livre Hijacked va être publié en 1970 et les droits vont être rachetés par la suite par le producteur Walter Seltzer, qui, à ce moment-là, approcha l'acteur Charlton Heston pour être la vedette principale de ce long métrage. Charlton Heston, à l'origine, il faut se comprendre, c'est un acteur qui a paru dans des grands films tels Ben-Hur, tels Les Dix Commandements. C'est un acteur qui est habitué de porter des films sur ses épaules. Mais à cette période-là, on voit que sa carrière s'en va en descendant puisqu'on commence à tourner des films un petit peu plus politiques, des films à plus petit budget. On est en train de descendre le niveau hollywoodien qui devient de plus en plus politique et Charlton Heston a de la difficulté à se trouver de la place là-dessus. Il y a deux choses qui sont importantes pour Charlton Heston. Cette chose-là qui va faire en sorte que lui se trouve une niche où est-ce qu'il pourrait repartir sa carrière. Et quoi de mieux que de le faire dans un film à petit budget où est-ce qu'il découvre qu'il est loin d'être l'acteur principal du film puisqu'il y a tellement de personnages secondaires dans le film que ça sera probablement la première fois de sa carrière où il ne tiendra pas nécessairement le film sur ses épaules et qu'il y aura probablement plus de scènes qui vont être filmées sans lui qu'avec lui, ce à quoi il n'est pas vraiment habitué. Mais la deuxième chose, c'est qu'en 1972, Charlton Heston est en train de travailler sur sa première réalisation, soit le film Anthony et Cléopâtre, ou Anthony et Cléopâtre. Et à ce moment-là, il a besoin de séquences qui étaient dans le film Ben-Hur en 1959. Et il prend une entente avec la MGM de jouer dans le film à condition qu'on lui donne l'autorisation d'utiliser des séquences du film de Ben-Hur pour son film d'Anthony et Cléopâtre. Ce qui est amusant ici, c'est la chose suivante. Deux ans plus tard, alors que John Guillermin et Charlton Heston font partie de Skyjack, en 1974, on va avoir trois films catastrophes extrêmement importants. Le premier va être un film réalisé par John Guillermin, qui va être La Tour Infernale. Deux de ses compétiteurs vont mettre en vedette l'acteur Charlton Heston, soit Earthquake, Tremblement de terre, et Airport 75, ou 747 en péril. Et ce qui est drôle, c'est qu'au niveau du box-office, John Guillermin va tomber numéro 1 avec La Tour Infernale en 1974, suivi en quatrième position de Charlton Heston avec Tremblement de terre et en sixième position avec Charlton Heston et 747 en péril. 90% du film va être tourné à bord d'un World Airways Boeing 707, ce qui est à peu près la même chose qu'on va voir tout à l'heure avec le film 7500. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment choisi ces deux films-là, parce que dans les deux cas, c'est une sorte de huis clos qui va se passer dans le cockpit de pilotage. La différence, c'est que dans ce film-là, qui est Skyjack, on va commencer à se promener un petit peu dans le devant de l'avion. Donc, on est en première classe, on est dans le niveau des salles de bain qui se situe juste en arrière de l'entrée pour le cockpit de pilotage. Donc, on se promène pas mal entre ces endroits-là, mais on reste quand même cerné au niveau de l'action à cet endroit. Anecdote amusante, c'est surtout de voir à quel point que Charlton Heston, après avoir réussi pour la première fois à atterrir son avion ou sortir son avion d'une situation extrêmement stressante, prendre sa pipe et l'allumer et fumer dans son cockpit sans demander l'autorisation à personne. Mais l'autre chose aussi, c'est montrer l'aspect macho que pouvait avoir Heston dans les années 70, notamment au début du film, dans ce moment où il fait la rencontre de son ex-petite amie, qui est l'hôtesse de l'air, interprétée par l'actrice Yvette Mimieux, qui est assis avec son nouveau chum, qui est le copilote de ce voyage-là, le copilote de Heston. Et Heston va comme dévisager Yvette Mimieux, se foutant carrément de la présence de son copilote, ce qui nécessairement n'est pas la meilleure chose si on tient à avoir une ambiance des plus aisances entre les deux hommes qui doivent, dans quelques instants, piloter un avion. Skyjack est un des premiers films catastrophes des années 70. D'ailleurs, le premier film catastrophe est officiellement Airport en 1970 et The Poseidon Adventure, dans la même année que Skyjack en 72, était le second. Mais la différence, c'est que Skyjack amène pour la première fois cette présentation des personnages principaux du film en montrant certaines situations de leur vie qu'ils devront combattre afin de pouvoir sortir en vie de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Ça pourrait être considéré comme un rip-off de Airport, ça pourrait être également considéré comme une suite de Airport, mais comme ça ne se passe pas dans un 747, Skyjack est plutôt un genre de spin-off. Bien qu'on pourrait l'inclure dans la ligne de Airport, c'est pas vraiment un film qui fait partie de cette franchise-là, franchise dont je vous parlerai une autre fois. Avec une femme enceinte à bord, un avion qui est piloté durant un orage sans aucune visibilité, la rencontre entre le Boeing 707 et un petit avion qui lui subit une panne de radio qui le rend incapable de communiquer et qui se présente exactement dans le même espace aérien que notre Boeing 707 qui, lui, sur le point de ne plus avoir d'essence, doit quand même atterrir en Alaska. Et avec le fait qu'on ait un capitaine qui fume la pipe dans le cockpit, un triangle à trois entre une hôtesse de l'air, un pilote et un copilote, et pour rajouter une petite sauce là-dessus, des avions militaires qui risquent de descendre notre Boeing 707 lorsque celui doit rentrer dans l'espace aérien soviétique, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment besoin d'une bombe pour mettre en danger l'équipage de cet avion. Du côté des points positifs du film, bien d'abord, écoutez, je vous dirais que la mise en scène de John Guillermin est impeccable. Guillermin prend un sujet des plus conventionnels et à chaque moment qu'on sent que le film va tomber dans la facilité, il trouve toujours une manière de venir rehausser le suspense et de venir réinventer la sauce. D'ailleurs, Skyjacked est considéré comme étant le premier film à parler d'une façon sérieuse des détournements d'avions. L'interprétation de Charlton Heston et de James Brolin sont à point. Heston en capitaine est excellent. Oui, il est un héros, mais contrairement à des films comme Ben-Hur ou comme Les Dix Commandements, il n'y a pas besoin de sortir ses biceps. Il va utiliser beaucoup plus sa tête et on voit ici que notre capitaine doit, malgré lui, suivre les directives du pirate de l'air et ce, sans avoir à le confronter une seule fois dans le film. James Brolin, malgré son interprétation over the top, lui aussi va nous donner une excellente interprétation d'un militaire un petit peu crack-boom que le Vietnam a rendu hyper agressif et qui désire s'exiler en Union soviétique. Et que dire du reste de la distribution qui est de qualité, surtout avec des acteurs de métier qui se retrouvent réunis ensemble autour de Heston et Brolin. Au niveau technique, disons que Guillermin utilise beaucoup l'aspect claustrophobique et huis clos en vraiment tournant son film dans la première moitié du Boeing 707. En aucun cas, on va aller en arrière, sauf au moment où, une fois qu'on est rendu à Anchorage, le capitaine va demander discrètement l'évacuation des passagers situés à l'arrière de l'avion. Et c'est une des rares fois qu'on va se rendre là. Par la suite, bien, on va vraiment se concentrer sur les gens qui sont dans la première classe et, bien sûr, le capitaine et les gens qui sont avec lui à l'intérieur de son cockpit. Je vous dirais le premier aspect négatif, surtout au niveau de la distribution, est probablement le rôle de Yvette Mimieux. Yvette Mimieux, quand on la regarde dans le film, elle a l'air perdue, elle a l'air d'une personne qui n'a pas envie de se trouver dans ce film-là, une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est triste parce qu'elle est le point central, veut-veut pas, du long-métrage, d'autant plus qu'elle est également le point central du trio amoureux que je trouve complètement artificiel et inutile dans ce film-là, surtout en Charlton Heston, le copilote et l'hôtesse de l'air. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui va briser le rythme. On dirait qu'Hollywood avait absolument besoin de mettre une histoire d'amour là-dedans, alors que Skyjack ne se prêtait pas à ça. On aurait pu éviter ça, puis tout simplement se concentrer sur l'aspect beaucoup plus psychologique du personnage de James Brolin, qui, lui, avait été traumatisé par le Vietnam, qui décide de s'en aller en Union soviétique et décide de détourner un avion pour faire cela. Et on aurait pu montrer beaucoup plus se concentrer sur l'aspect de la démence du personnage que de ce qu'on a fait dans le film parce qu'il fallait prendre du temps sur des flashbacks puis nous montrer toute l'histoire amoureuse de Charlton Heston, Yvette Mimieux et le pourquoi qu'on se retrouve dans cette espèce de situation bizarroïde entre les trois personnages qui sont lui, Yvette Mimieux et le copilote. Au niveau du scénario, bien, il y a des moments qu'on tombe dans le traditionnel, dans le conventionnel, surtout lorsqu'on présente les personnages, on présente des petits bouts d'histoire, on démontre que ces personnages-là doivent vaincre leurs démons pour essayer de survivre à la situation dans laquelle ils se trouvent. Je pense que ce sont des moments qui sont inutiles également. Je pense qu'on aurait pu ne pas avoir à présenter ça, mais je pense qu'on voulait quand même le présenter pour essayer de trouver un attachement à ces personnages-là, mais on ne prend pas assez de temps pour les présenter, donc on ne s'attache pas vraiment aux personnages. Et il y a tellement de personnages secondaires qu'à un moment donné, tu viens juste qu'à te concentrer sur l'hôtesse de l'air, le capitaine et le pirate de l'air. Le film aussi, son autre gros défaut, c'est que quand vous le regardez, vous avez l'impression d'écouter un film de série B fait pour la télévision. Et c'est peut-être le gros reproche, surtout quand on sait que c'est un film qui était tourné pour le grand écran, de voir que c'est un film qui pouvait diffuser sans difficulté à la télévision parce que c'était un contenu qui allait très bien pour un format de petite télévision. D'ailleurs, lorsque le film a été ressorti à la télé, le titre avait été alors transformé par Sky Terror. Mais autant au cinéma qu'à la télévision, Skyjacked eut un énorme succès aux deux endroits, ce qui fait que c'est devenu avec le temps un film culte. Et pour terminer la présentation de Skyjack, je vais vous présenter un extrait musical réalisé par le compositeur Perry Butkin Jr., à qui l'on doit des trames sonores des séries télé Happy Days, Laverne and Shirley, Mork and Mindy, mais qui au cinéma avait également fait les trames sonores de films comme Going South et Silent Night, Deadly Night. Eh bien, pour ce film-là, dont malheureusement il n'existe aucune trame officielle du film, eh bien, il va quand même nous donner quelque chose un petit peu disco des années 70, tout en gardant un aspect très connu des trames sonores de films catastrophes.
It's refreshment time, folks.
Taste that beats the others cold. Pepsi pours it on. Taste that beats the others cold. Pepsi pours it on.
And now, on with the show.
You guys seem to know each other.
We have a boy at home.
Oh, I'm sorry. Are you ready for boarding, guys?
We were born ready. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain. I'd like to wish you a nice day and thank you for your trust in us.
So, guys.
Ich hab...
Philadelphia 162, what's your emergency?
We have a 7500.
Open the door!
Several men attacked our cockpit. We stopped them for now. The captain is injured. Status of the crew, I don't know.
They have a hostage. They're gonna kill him if I don't open the door.
You want other guys to die?
Don't stop, please.
I can't open the door. Let her go. Please. Please, I beg. Please.
I'm sorry, but you know that under no circumstances you are allowed to let them to the cockpit.
They don't have guns. They don't have knives. If you work together, you can beat them.
It's okay. You're going to be all right.
European 162, what's the status?
Notre programme principal, 7500, un drame autrichien-allemand qui a été diffusé via streaming par Amazon Prime le 18 juin 2020. C'est un film qui a quand même passé dans différents festivals en 2019, d'où la raison pourquoi sa date de sortie officielle est 2019 et non pas 2020. Le long métrage d'une durée de 92 minutes a coûté 5 millions à produire. Bien sûr, au niveau du box-office, comme c'est un film qui est diffusé via streaming, bien, il n'est pas possible d'avoir le montant d'argent qu'il a ramassé. Au niveau de la réalisation, le metteur en scène allemand Patrick Wolrath fait ses débuts derrière la caméra, lui qui pendant 10 ans s'était spécialisé dans la réalisation de courts-métrages. Dans la distribution, on retrouve l'excellent Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Tobias Ellis. Gordon-Levitt qu'on avait vu dans des films comme 50-50 ou des séries télé comme Third Rock from the Sun. À ses côtés, Omid Memar, Muratan Muslu, Aileen Tezel, Aurélie Tepo, Carlo Kitzlinger et Paul Wallin. 7500 raconte l'histoire d'un copilote, Tobias Ellis, qui, alors qu'il est aux commandes d'un Airbus A319 en transit entre Berlin et Paris, se retrouve menacé par un groupe de terroristes armés de couteaux réalisés à l'aide de bouts de plastique brisés qui cherchent à prendre le contrôle de son avion. Avec l'aide du capitaine, il va réussir à repousser la première attaque de ces terroristes qui avaient réussi à pénétrer le cockpit. Mais par le fait même, lui-même va être blessé et son capitaine, lui, va mourir par la suite de ses blessures, laissant Tobias seul aux commandes de l'avion. Après avoir été détourné en direction de Hanover en Allemagne par la tour de contrôle afin de permettre à la police de mettre en arrêt les dix terroristes, notre copilote va être pris dans un dilemme éthique, à savoir est-ce qu'il doit laisser rentrer les terroristes pour leur permettre de commettre un acte terroriste avec l'avion qu'il pilote ou laisser mourir les quelques 85 passagers que les terroristes vont exécuter les uns après les autres devant la caméra de son cockpit afin de forcer le copilote à prendre la décision de les laisser pénétrer et de prendre ainsi le contrôle de l'avion. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit du premier film du réalisateur allemand Patrick Wolrath, qui, lui, avait réalisé depuis 2009 une série de courts-métrages dont le dernier film, Everything Will Be Okay, avait reçu d'excellentes critiques au niveau journalistique et surtout lui avait donné plusieurs nominations, incluant une comme meilleur court-métrage à la 88e édition des Oscars. Ça va lui donner l'opportunité d'avoir entre les mains le scénario de 7500. Et la première décision qu'il va prendre, c'est d'aller chercher l'acteur Paul Dano, qu'on a vu dans The Emperor's Club, 12 Years a Slave et Cowboys and Aliens, pour interpréter le rôle principal. Cependant, le tournage qui devait commencer en milieu 2017 a été reporté pour des raisons techniques et Paul Dano a dû tout simplement quitter la production, laissant la place à Joseph Gordon-Levitt, ce qui était probablement la plus belle chose qui pouvait arriver à ce projet-là. Le tournage va débuter en novembre 2017 à Cologne et à Vienne, à bord d'un avion Airbus A320 mis hors service et racheté par les producteurs du film. Ce qui est important de préciser également, c'est que l'acteur Joseph Gordon-Levitt avait pris des cours de pilotage grâce à des simulateurs de vol et également en visionnant plusieurs vidéos de pilotes en action. Ça, c'était sa façon pour lui d'essayer de rendre le plus crédible non seulement son personnage, mais les actions que son personnage allait commettre dans le cockpit pour que ça soit le plus réaliste possible au niveau du pilotage de l'avion. D'ailleurs, ce qui est vraiment amusant, c'est de savoir qu'il a reçu une formation de pilote de l'air par l'acteur Carlo Kitzlinger, qui lui-même interprétait le personnage du capitaine et qui pilota dans la vraie vie pour la compagnie Lufthansa pendant plus de 20 ans. 7500, C'est le code qui est donné par la tour de contrôle lorsqu'un avion se fait détourner ou qu'il est en tentative de détournement. Et face à ça, bien, ça nous amène à parler des points positifs du film. D'abord, écoutez, on ne peut pas passer à côté l'interprétation sublime de Joseph Gordon-Levitt qui tient le film carrément sur ses épaules et qui amène autant un côté humanisme que réaliste à cette production. Le réalisateur Patrick Wolraff, ici, nous donne une mise en scène solide. Je vous dirais principalement avec la technique qu'il utilise pour placer sa caméra dans le cockpit, parce qu'il faut comprendre que le film se passe du début à la fin à l'intérieur du cockpit. Il n'y a que trois moments où on sort du cockpit et on ne va pas vraiment sortir. Mais je vous explique. La première, l'introduction du film. Donc, le générique du début du film, on voit à travers les caméras de l'aéroport. Donc, on voit les terroristes se préparer à commettre le geste qu'on va voir. À l'intérieur de l'avion, le seul moment où on voit à l'extérieur du cockpit, bien, c'est ce qui se passe devant la porte, alors qu'on voit à travers la caméra et de l'écran vidéo du personnage principal. Et finalement, à la fin du film, la caméra sort du cockpit et s'en va dans le corridor de l'avion pour voir le personnage principal sortir du cockpit et être accueilli à l'extérieur de l'avion par la police. Ce sont les trois moments où vraiment vous allez voir autre chose que le cockpit. Pour le reste, Patrick Wolraff va se servir vraiment des jeux de caméra vraiment sublimes, mais surtout, au niveau de l'éclairage, il va utiliser l'éclairage ambiant produit par les lumières qui sont sur le tableau de bord du cockpit. Ce que ça va faire, c'est que ça amène un huis clos qui nous amène une tension continuelle et qui fait en sorte que, à partir du moment que l'action commence, vous êtes pris dans une espèce d'engrenage où vous ne pouvez pas vous sortir. Au niveau de l'ambiance, ça aussi, c'est un point fort du film parce que tout ce qu'on a, c'est qu'on n'a aucune trame sonore musicale. Donc, on utilise véritablement les bruits ambiants, que ce soit les bruits de la console, que ce soit la radio, que ce soit la communication, que ce soit les terroristes qui frappent sur la porte tout le long pour essayer de rentrer puis de forcer Tobias à ouvrir la porte. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup dans le stress et dans l'intensité qui est amenée dans le scénario et dans le film. Du côté des points négatifs, bien, c'est sûr et certain que si vous écoutez 7500, il ne faut pas vous attendre à des films comme United 93 ou encore Non-Stop, gros film d'action avec du gros budget et des choses comme ça. C'est vraiment terre à terre, c'est vraiment le jeu d'un acteur, c'est ce qui fait la différence. L'autre point aussi, c'est peut-être les facilités scénaristiques. Comme on est coincé dans un temps réel en 90 minutes, c'est sûr et certain que par moment, l'action est incrédible. Je m'explique. Le capitaine est blessé dans la première attaque, tout comme le copilote. Tobias va se soigner, va s'occuper de régler ses blessures, va parler à son capitaine qui lui dit que tout est correct, mais finalement, il n'entend plus parler son capitaine, puis finalement, il se rend compte que le capitaine est mort. Mais il aurait dû aller voir son capitaine et soigner son capitaine qui lui avait une blessure beaucoup plus importante que lui-même qui était juste blessé à un bras. Donc ça, peut-être là-dessus, je dirais que c'est peut-être un reproche que je vais faire au film. L'autre aspect aussi qui est peut-être fatigant aussi, c'est l'aspect de frustration qui se crée avec le film. Parce qu'à un moment donné, tu te dis que le personnage principal a probablement la meilleure arme pour se défendre contre les terroristes, c'est-à-dire son avion. S'il décide de descendre à une vitesse rapide, bien, eux ne sont pas attachés avec une ceinture de sécurité. Donc, normalement, ils devraient planer dans les airs, peut-être, qui sait, s'assommer sur la toiture de l'avion. Donc, il aurait pu ou tourner à gauche ou tourner à droite. Il va le faire à un moment, puis tu dis, bon, enfin, il réalise qu'il y a une arme pour se battre avec les terroristes, mais il ne l'utilise pas vraiment à soi. Peut-être que c'est moi parce que je ne connais pas vraiment l'aspect de l'aviation, puis que peut-être qu'un pilote ne peut pas faire ce genre de choses-là. Mais il me semble que il aurait pu jouer beaucoup plus sur ce niveau-là et a peut-être apporter un aspect défensif ou un aspect de confrontation beaucoup plus intéressant entre les terroristes et le copilote. L'autre chose aussi, bien, c'est cet aspect où est-ce que là, on va avoir droit à la fin, dans le dernier 20 minutes, à une confrontation psychologique entre le terroriste et Tobias, où je trouve que ça brise le rythme qui avait été atteint pendant le premier 70 minutes de film. Mais c'est sûr et certain qu'encore là, le fait qu'on a un scénario qui est miné dans une cabine de pilotage, on n'avait pas le choix que ça arrive. Donc, ça a des pour, ça a des contre, mais je pense que c'est peut-être un point négatif. Je vais vous laisser sur ce petit bout musical de piano qui joue à la fin du film durant le générique de la fin, qui est interprété par Daniel Iribarren, l'éditeur de son qui, pour toute la durée du film, s'est servi de bruit ambiant pour amuser sa trame de son, mais que pour la fin, a décidé de nous donner ce petit bout musical que je vous fais jouer à l'instant. Bien sûr, vous aurez compris qu'il n'existe aucune trame sonore officielle du film 7500.
Thank you.
Et pour finir ce podcast, eh bien, je vais vous donner mes cotes. D'abord, au niveau de Skyjack, en 1972, le film était coté 4. C'est la cote que je lui donne également. Donc, c'est un bon film. Du côté de 7500, bien, Mediafilm n'a pas donné de cote puisque c'est un streaming. De mon côté, bien, moi, je lui donne également une cote 4, soit un bon film. Au niveau de l'âge, eh bien, Skyjack était coté pour tous en 1972. Habituellement, moi, j'irais avec un 14 ans, sauf que pour une rare exception, je vais aller dans le 13 ans indicatif parce que je pense que c'est aux parents à décider si un jeune enfant peut regarder ça. Il y a quelques scènes de violence dans Skyjack, mais je pense que c'est le sujet du film, donc le détournement d'avion, qui n'est peut-être pas approprié pour un jeune enfant, mais c'est aux parents à déterminer ça. Du côté de 7500, bien, c'est un film qui est coté 13 ans indicatif du côté de Mediafilm. Moi, je considère donc que c'est un 14 ans. Même chose, quelques scènes de violence, beaucoup plus violent que Skyjack, et bien sûr, le détournement, donc le sujet du détournement d'avion, qui n'est peut-être pas adéquat pour un jeune auditeur. Au niveau de sa disponibilité en DVD ou en Blu-ray, le film Skyjack est disponible en DVD seulement, n'a pas été fait en Blu-ray. Du côté de 7500, bien, au moment où on se parle, il n'y a pas de sortie en DVD ou en Blu-ray de prévu vu que le film est diffusé en streaming sur Amazon Prime. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.